Laudetur Jesus Christus.
Les missiles pleuvent dans le nord syrien, combat entre la Turquie, les Kurdes et Damas. Nous nous rendrons à Asaké, près du front, avec le témoignage de l'archevêque de la ville. Les négociations pour un accord de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni seraient dans leur dernière ligne droite. Un accord doit être trouvé avant l'ouverture du sommet européen de ce jeudi. Puis direction la France, où les députés planchent en ce moment même sur un sujet délicat, la révision des lois de bioéthique. Nous entendrons le secrétaire général de la Conférence des évêques de France. 4 mois que les manifestations ont débuté à Hong Kong. Quelles sont les conséquences sur l'économie hongkongaise de ce mouvement ? Reportage en fin de journal.
Le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à tous. 7e jour d'offensive turque dans le nord de la Syrie. Offensive pour déloger les forces kurdes, considérées par Ankara comme des terroristes. Et le président Erdogan ira jusqu'au bout, martelait-il ce matin. Lâchés par les Américains, les Kurdes ont demandé l'appui de Damas. Et dès hier, des troupes syriennes sont arrivées sur place, entrant notamment dans Minbej pour la première fois depuis 2012. Des missiles auraient été tirés de la ville, tuant 2 soldats turcs. En représailles aux tirs turcs de ces derniers jours qui ont touché par exemple la ville syrienne de Kamishli. À 80 km de là, l'archevêque syriaque orthodoxe d'Asaké, Monseigneur Maurice Amsay, porte un œil attentif à l'évolution de la situation. On l'écoute.
À Asaké, grâce à Dieu, il n'y a pas de violence commise par les militaires turcs. Nous avons les Kurdes et l'armée syrienne qui contrôlent tout. Ici, tout le monde est protégé, mais pas au nord, car les missiles et les roquettes sont tirés depuis la Turquie. À Kamishli, il y a de nombreux blessés. Je suis allé les voir hier et lundi. À l'hôpital, j'ai vu des blessés chrétiens et musulmans. Les missiles ne font aucune distinction. Hier, les militaires ont attaqué plusieurs villes du nord, Ras Al Ain, Nabarsiya, Kamishli, et beaucoup de personnes ont fui vers le sud et Asaké. Nous avons un monastère à 25 km d'ici. Nous avons dit aux chrétiens que s'ils avaient besoin d'un abri, ils étaient plus que les bienvenus. Mais de nombreux chrétiens de ces villes ont des proches ici et vivent chez eux. Mais concernant les musulmans, il y a plus de 150 000 personnes qui ont besoin d'un abri de l'ONU ou d'autres comités pour les aider.
Voilà l'archevêque d'Asaké en Syrie, interrogé par Marie Duhamel. Et une nouvelle fois, Paris a fait part de son indignation cet après-midi, estimant que la Turquie et les États-Unis portaient une responsabilité très lourde dans le chaos nord syrien. Et après la France et l'Allemagne, l'Espagne vient d'annoncer à son tour stopper ses ventes d'armes à Ankara. Demain, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de la Syrie. Une réunion demandée par les membres européens du Conseil de sécurité. Peu de chance cependant d'arriver à un consensus à l'ONU pour accentuer la pression internationale, car la Russie risque en effet d'utiliser à nouveau son veto. Et pendant ce temps, Ankara continue sa politique de répression contre les Kurdes sur son territoire. Les maires pro-kurdes de 4 villes du sud-est de la Turquie ont été arrêtés aujourd'hui. Ils sont accusés d'appartenance ou de lien avec le PKK, le Parti des travailleurs au Kurdistan, une organisation considérée comme terroriste par le pouvoir turc. L'horloge tourne dans exactement 17 jours. Le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne. Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union se sont retrouvés à Luxembourg ce mardi, pendant que les négociations continuent autour d'un éventuel accord de sortie pour le Royaume-Uni. Un accord est encore très possible, estime le négociateur britannique Stephen Berkeley. Et de son côté, le négociateur européen Michel Barnier continue de demander des garanties juridiques. La question de l'Irlande est toujours le point focal des discussions. Le sommet européen de ces jeudis et vendredis apparaît désormais comme l'échéance pour avoir un texte sur la table, mais il commence déjà à se dire qu'elle pourrait être dépassée. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazet.
Au centre de l'optimisme affiché par les Européens figure la possibilité d'établir des contrôles douaniers en mer d'Irlande et non plus entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. La levée de cette ligne rouge par le gouvernement britannique est de plus en plus probable puisque c'était la pierre d'achoppement de ce nouveau filet de sécurité. Ceci maintiendrait de facto l'Irlande du Nord dans le marché unique européen, voire l'union douanière, ce qui créerait une frontière virtuelle avec la Grande-Bretagne et couperait donc en deux le Royaume-Uni. Le point central de ces négociations de dernière minute est la capacité des deux parties de parvenir à un texte juridique et contraignant. L'échéance de ce mercredi est destinée à présenter aux chefs d'État et de gouvernement une version prête à être avalisée et certainement pas négociable. Des points de blocage subsistent autour de questions de concurrence et au cas où ce texte ne serait pas prêt à temps, l'idée d'un nouveau sommet européen extraordinaire sur le Brexit est de plus en plus évoquée. Il faudrait qu'il se tienne d'ici la fin du mois et ouvrirait la porte à un hypothétique nouveau report du Brexit. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et les discussions laborieuses du Brexit pèsent sur les prévisions de croissance. Le FMI revoit ses prévisions à la baisse pour les pays de la zone euro pour cette année et l'année prochaine. Également à cause de la mauvaise santé économique de l'Allemagne, très affectée par les tensions commerciales et les déboires de son industrie automobile. Les députés français doivent se prononcer dans la soirée sur le projet de révision des lois de bioéthique lors d'un vote solennel. 80 heures ont été nécessaires pour examiner les 2600 amendements déposés lors de l'examen dans l'hémicycle. La mesure emblématique de ce texte de 32 articles est l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Il prévoit également une délicate réforme de la filiation et de l'accès aux origines, la recherche sur les cellules souches embryonnaires, mais aussi la conservation des ovocytes sans indication médicale. Le père Thierry Magnal, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, il pose un regard critique sur le débat parlementaire qui vient d'avoir lieu.
À la fois, on a eu des auditions qui ont précédé le travail de l'Assemblée et ces auditions ont permis que beaucoup de familles philosophiques, religieuses, d'orientations très différentes puissent s'exprimer. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur de notre démocratie. Mais il faut bien dire qu'on a eu l'impression que beaucoup de choses étaient jouées d'avance dans le débat parlementaire et petit à petit, les grands projets tels qu'ils avaient été dessinés initialement se trouvaient votés sans vraiment poser sur la table les questions qui nous sont majeures et en particulier les conséquences que les décisions prises aujourd'hui auront sur demain. Et ça, on était plutôt dans prendre en compte les désirs de la société d'aujourd'hui, les demandes de la société d'aujourd'hui et comment les sciences et les technologies médicales peuvent permettre d'y répondre. Les conséquences, et en particulier sur l'enfant à naître, par exemple, ont été finalement très peu débattues dans l'hémicycle.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. En Catalogne, en Espagne, les manifestations continuent après la condamnation hier des dirigeants catalans à de lourdes peines de prison. Plusieurs routes étaient encore coupées aujourd'hui, également des voies de chemin de fer. Les manifestations sont cette fois menées par une organisation qui se fait appeler Tsunami Démocratique et aspire à imiter le mouvement de Hong Kong. Sur les réseaux sociaux, un slogan circule, faisons de la Catalogne un nouveau Hong Kong. On prend justement la direction de Hong Kong. Cela fait maintenant 4 mois que le mouvement pro-démocratie a débuté ses manifestations. L'ancienne colonie britannique traverse sa pire crise politique depuis sa rétrocession en 1997. Et cette crise politique n'est pas sans conséquences économiques. Le reportage à Hong Kong de Philippe Dova.
Les manifestations massives, les scènes de violence, les saccages de boutiques et les incendies de stations de métro ternissent depuis 4 mois l'image de Hong Kong avec un impact direct sur tous les secteurs de l'économie de la ville, à commencer par l'hôtellerie. Luc Bolen, directeur général de l'hôtel Pullman Parkland Hong Kong.
Les manifestations à l'aéroport nous font mal. Après le 11 et 12 août, on a eu une chute assez grave de 60% de taux de réservation. Et une fois que les gens ne sont pas certains qu'ils peuvent bien arriver ou sortir sans problème, c'est là où ça fait mal pour le tourisme.
Et ça fait même très mal. Salons et événements sont pour la plupart annulés. Les hordes de touristes chinois ont déserté la ville. Résultat, les commerces de luxe enregistrent une chute de 40 à 80% de leurs ventes. D'après une déclaration mercredi dernier de l'association des restaurateurs, une centaine de restaurants ont mis la clé sous la porte en septembre et plus de 2000 salariés se sont retrouvés au chômage.
Si ça continue encore, ça va être vraiment une crise économique et une crise sociale, surtout pour les ouvriers. C'est une agonie. On ne sait pas quand ça va finir. On n'a pas de vue sur la fin.
Et c'est la grande inconnue avec quoi qu'il arrive, la certitude qu'il faudra de nombreux mois avant qu'Hong Kong ne retrouve le chemin de la prospérité. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information demain matin à 8h30. En attendant, rendez-vous sur notre site internet vaticannews.va. Je vous souhaite une très belle soirée.